suicide aujourd'hui d'accepter ce soutien aux dictatures au nom du rempart de l'islam. Vous dites d'ailleurs, nous nous accommodions de Belaïd, même si nous le commissions.
Oui, alors là, c'était... C'est-à-dire que nous étions à une époque où nous avons été attrapés par l'islamisme comme un mal absolu, et à un moment, c'était... Je me souviens d'un débat, un débat qui a eu lieu même à l'intérieur même de ma famille était utilisée, ma famille nucléaire, ma femme et ma fille étaient contre moi à l'époque où ce phénomène s'est exprimé en Algérie. Lorsque le fils est arrivé au pouvoir, personnellement, j'étais, comme mes amis algériens, comme Tarajaout, comme Boudjedra, comme nombre d'écrivains algériens, nous étions parmi ceux qu'on appelait des éradicateurs. Enfin, c'est la vérité, c'est ainsi. C'est-à-dire, du moindre mal, des deux mots, on préférait le moindre. Notre argument était, à l'époque, j'avais armé Staline pour lutter contre Hitler. Voilà, il y avait cet aspect-là. Et c'est cette structure qui, à un moment, était légitime et justifiée, peut-être, a trop duré parce que le monde est en train de changer. Vous savez, moi, je crois beaucoup au fait que tout le monde, de ce point de vue-là, je suis vraiment empédocléen, dans le sens où les séquences de l'amour et de la haine, du mal et du bien, si on veut, vous savez, la dualité en pédocléenne, elle est tout le temps mal entendue. Il ne s'agit pas d'un moteur où, simultanément, cette dualité, cet opposé fonctionne et crée de l'énergie. Non, il est en fait cyclique. Il est séquentiel, il est beaucoup plus dans la vision cyclique. À la limite, cyclique, ça a bien vu cet aspect cyclique. D'ailleurs, à l'époque médiévale, chez les Arabes eux-mêmes, lorsqu'on pédocle, je leur ai parlé de lui, parce qu'il y a un pédocle arabe, un des sujets et une des problématiques autour d'un pédocle était de mesurer la séquence de la haine et de mesurer la séquence de l'amour qui lui succède. La vie, telle que je l'ai vécue en participant à la jeunesse du monde dans les années 60, on était dans l'esprit qui fera mai 68. Dès Tunis, quand j'étais dès la seconde à Tunis, j'ai été marqué par cet esprit-là. Et le monde entier était marqué par cet esprit-là. À la fin des années 70, on est entré dans une phase qu'on peut appeler néoconservatrice pour le monde entier. Et l'esprit de mai 68 s'est occulté. Ceux-là même qui avaient été 68 sont devenus parfois les ténors du néoconservatisme dans leur propre culture. Et c'est dans cet esprit de néoconservatisme, dans cet esprit-là, que va prospérer l'islamisme. Et il me semble, voilà, 30 années sont passées, hein, le repère est très clair, 1979, Khomeini en Iran, la chute du Shah, une dictature qui est remplacée par une dictature pire, voilà, là aussi. C'est un des sujets de méditation. Pourquoi nous étions à l'époque avec Benani et réprimant les islamistes qui, à l'époque, ont, même en Tunisie, manifesté des violences inouïes qui vont ignorer, par exemple l'attaque des filles, l'attaque qui nous choquait au plus haut point à la fin des années 80, des filles dévoilées avec de l'acide. C'est des choses qui nous terrorisaient, qui nous scandalisaient. Et donc, il fallait que, avec un texte qui est sorti, de Mohamed Mour en ce moment, il apparaît beaucoup dans les divisions, il a énormément évolué, il dit un tout autre discours, il est même critique à l'égard des siens, il semble être devenu démocrate, mais à l'époque il a sorti un livre qui s'appelle Laïc et traître, et un livre terrible qui nous a attaqué nous tous, nous, le mouvement royaliste, Laïc, tous les intellectuels, il nous situait comme le cheval de Troie de l'Occident, comme un anti-occidentalisme élémentaire, maladif, destiné donc à des agents de la déculturation, de la détresse. Voilà. Et alors, sans parler de toute la théorisation des laïcs comme non-musulmans, du fait même qu'ils ne croient pas à la loi divine et qu'ils préfèrent la loi humaine à la loi divine. Qu'il prône le droit positif par rapport à la charia, sans toutes ces questions-là, qui situe le laïc, il y a eu des articles à l'époque absolument terribles, je veux dire. C'était même pas la peine d'aller jusqu'au terrorisme d'Al-Qaïda, c'était à l'intérieur même de la cité. qui faisait que on situait les lettres en apostat, et on sait que dans la logique de la Seigneur, l'apostat fait partie de la mentalité. Donc vous imaginez à quoi on avait affaire. Et cela, Mohamed Bour aujourd'hui a un discours tout autre. Donc toute la structure est en train d'évoluer. Je crois que nous sommes dans un moment où nous commençons notre séquence et que d'une manière objective, me semble-t-il, je dirais qu'il y a là, et nous pouvons percevoir rudiment qu'un certain nombre de considérants qui ont marqué les 30 dernières années sont en train de s'épuiser et qu'on est en train de passer dans autre chose. Alors évidemment, un événement comme celui qui a eu lieu cet hiver et qui n'a jamais utilisé ou touché de référent islamiste, ni même islamique, ni même religieux, ni même aucune référence à quelque idéologie que ce soit, est un événement justement qui va précipiter cette sortie de la séquence antérieure. Nous allons vers une autre époque et donc là, tout est en train de se redistribuer. Et je crois que, il me semble que le critère de cela peut-être, là aussi je parle, vous savez, j'ai souvenir d'un ami, un philosophe spécialiste de Platon et en même temps une chronique journalistique dans le Devoir du cadre de l'Université du Québec à Montréal, m'avait dit une fois que le jour où vous parviendrez à discuter dans le milieu du sens avec Tariq Ramadan, ce sera là le signe que la démocratie dans votre espace est en train de venir. Cette discussion a eu lieu il y a quelques jours dans le monde. Alors, vous n'êtes pas seulement loin son faux spectateur, ce printemps de Vix, ce printemps sans idéologie, vous rappelez, et sans chef, également, c'est une très caractéristique de cette révolution, vous engagez à travers un appel. L'appel du 17 janvier, j'aimerais bien que vous puissiez nous le dire.
Oui, je veux bien parce que c'est un texte fort, c'est un texte en effet, c'est un appel de personnes, hein, c'est quasi privé, et comme il y a Facebook, on a mis sur Facebook, on a hésité à on aurait pu le sortir dans la presse, mais on n'a préféré pas. Mais je l'ai pensé avec très éclairé et avec sous l'éclairage et les lumières d'un ami qui est un très grand juriste, Ali Mesrani, qui est professeur de droit international, qui a été pendant 30 années à Tunis. Lui, il est vraiment le bon Guinéen pur et dur, un laïc absolu, si j'ose dire, et puis un défenseur radical de la logique du droit et du droit positif. Et il a fait partie de ce qu'on pourrait appeler le début d'une école juridique moderne, qui a donné un travail formidable au sein d'une des deux facultés de droit de l'Université de Tunis, avec d'ailleurs notamment le professeur Ayad Ben Achour, celui là même, qui dirige cette assemblée qui est en train d'élaborer la loi électorale pour le 24 janvier prochain en Tunisie, un spécialiste du droit public, lui-même intellectuel, et on écrit beaucoup de livres, avec Mohamed Chalabi, qui était un très qui nous a quittés. Moi, je regrette l'absence de Mohamed Chalabi, qui a été un très grand ministre de l'éducation au début de la législature, de la première législature de Ben-Ali. Il a été un ministre de l'éducation absolument majeur et important parce que le système pédagogique bourguignon qui a été fait sur des bases totalement dans l'esprit de l'école de Jules Ferry. Vous savez, l'école de Jules Ferry a été universalisée en Tunisie à l'époque post-coloniale. Et Bourguiba, un de ses attributs n'était pas le SNAP, mais le SNAP, les choses auraient été beaucoup plus simples, mais il était porteur de fortes ambivalences et complexions, si j'ose dire, mais une de ses généalogies, c'est un pur produit de la Troisième République française. Et de l'esprit du droit, tel qu'il l'a appris sur les bancs de la République.
Et toute la génération qui avait apporté l'indépendance, qui a refondé l'État en Tunisie, était formée par cet état d'esprit. Et donc, à la fin des années 70, justement, dans l'entrée de cette phase néoconservatrice, en plein populisme, mais un populisme déclinant, il y a eu grand crise dans le système de l'enseignement tunisien. Et on a injecté dans les manuels deux choses qui étaient totalement exclues et délibérément par Bourguiba, de l'islamisme et de l'arabisme. Et donc, Chafi avait recentré les choses à la fin des années 89, lorsqu'il avait pris ce ministère en main. Et les chantiers, par exemple, pour l'élaboration des manuels, étaient des gens de ma génération et de la même formation qui avait présidé à ces commissions, a été un travail formidable. Je me souviens d'ailleurs de Chafi me disant peut-être que je fais de l'entrisme, parce qu'il venait pas beaucoup de Nahi, mais il le savait, il était le ministre de l'éducation, mais en même temps, je voudrais créer une école qui produirait des citoyens qui ne pourront jamais plus, d'une manière naturelle, accepter la servitude volontaire qui est au fondement du despotisme. Et je crois que d'une certaine manière, alors je lui rends hommage dans le livre, cette politique, ce sont les enfants produits par cette école conçue par Mohamed Chafi qui avaient fait les événements qui ont abouti au 14 janvier. Cet élément qui est majeur,
mais là, je dirais que ça fonctionne et on découvre dans 7 ans.
Oui, on voit ça, ou avant, oui, c'est-à-dire profondément, Rousseau est renforcé. Bourguiba aimait beaucoup une phrase de Rousseau dans le contrat social, l'État instituteur du peuple. Donc il y a cette idée aussi de l'État autoritaire éclairé pour justement procéder à la mutation historique, pour conduire à la mutation historique. Et cela a été fait. C'est cette école qui a créé la classe moyenne tunisienne et qui a les produits de cette école ont été très actifs dans cet événement. Et donc, Al-Mousrani appartient à cette même école juridique, et au bout donc, de 30 ans d'enseignement, c'était absolument irrespirable, et depuis une dizaine d'années, il est désormais, sa chaire est désormais à Paris, à Panthéon, où il avait créé une chaire de droit comparé. Et donc c'est avec lui qu'on a écrit cet appel le 17 janvier, deux jours d'ailleurs, on l'a pensé, et on l'a donc, il a pris sa forme et il a été diffusé deux jours après, lorsque nous étions trouvés à la manifestation qui a eu lieu à Paris le 15 janvier, et que je décris d'ailleurs, de soutien aux événements qui venaient d'avoir lieu la veille à Tunis.